Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
De l'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis. Nathalie Barge avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington pour donner la parole à nos invités et auditeurs qui vont aborder aujourd'hui la question de la démocratie. Pourquoi ça marche mieux dans certains pays que d'autres et surtout que faire pour que cette belle formule politique soit effective. En effet, ces dernières années, l'Afrique subsaharienne a connu plusieurs coups d'État. La violence armée persiste dans certaines régions. De nouvelles rébellions se forment et les attaques djihadistes s'amplifient. Rares sont les élections qui se tiennent sans contestation et les manifestations s'avèrent souvent meurtrières. La société civile dénonce régulièrement des abus et l'absence d'alternance politique. Alors que certains États africains, comme par exemple la Namibie, sont parvenus à instaurer des démocraties fonctionnelles, d'autres ne présentent aucun signe de changement. Alors comment pouvoir et garantir la démocratie, promouvoir et garantir la démocratie? Pourquoi ça marche dans certains pays et pas dans les autres? Quels sont les obstacles au développement de la gouvernance par le peuple et pour le peuple? Nous avons avec nous Leila Ndiaye, experte en affaires africaines et relations internationales, ancienne directrice des politiques pour les affaires africaines à la Chambre du commerce américaine, entre autres postes. Et vous avez été notamment conseillère d'un président africain. Leila, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci Nathalie de m'avoir invitée.
Et nous avons également en ligne Marthe Dédé Kouavogui, qui est militante guinéenne des droits des femmes. Elle est entrepreneure. Elle est fondatrice du Mouvement mondial des femmes et filles, leader panafricaine et caribéenne. Elle est experte en droit économique. Elle s'est présentée aux élections locales, notamment en Guinée. Marthe, bonsoir, comment allez-vous?
Je vais très très bien.
C'est également un plaisir de vous avoir avec nous. Alors je vais commencer un petit peu par Leila. La démocratie, est-ce qu'il faut des modèles de démocratie ou en tout cas des modes de gouvernance adaptés à chaque culture ou région? C'est souvent la question qu'on se pose en Afrique.
Merci pour cette question. Nous avons tous constaté depuis ces dernières années, que l'Afrique est à nouveau frappée par une série de coups d'État qui mettent à mal justement la démocratie. Et nous nous interrogeons tous sur le modèle démocratique qui est utilisé dans la plupart des pays africains. Alors, le constat que je fais d'emblée, c'est que cette démocratie telle que conçue à l'occidental n'est pas forcément adaptée aux réalités africaines. Pourquoi ? Il faudrait peut-être la repenser. La repenser en prenant en compte les aspects culturels, ethniques, sociologiques et même, j'irais au-delà de cela, intégrer vraiment la culture et la tradition africaine dans cette démocratie qui, encore une fois, nous a démontré qu'elle n'est pas le modèle idéal pour les pays en Afrique, ne serait-ce qu'en Afrique subsaharienne. Vous me parliez tout à l'heure, vous avez donné l'exemple du Botswana ou même de la Namibie, j'irai même encore plus loin, je parlerai aussi du Sénégal qui a souvent été un modèle de démocratie dans le sens où le Sénégal a semblé relever le défi des enjeux. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec la maîtrise des arcanes de la démocratie. Ça a à voir avec le fait que le peuple sénégalais lui-même, dans son essence, dans sa culture, dans son ADN,
assimilé.
Mmh. Qu'est-ce qu'il a assimilé? Pas la démocratie. Il a assimilé le pardon, la réconciliation dans sa culture. Donc, ça fait un faux semblant, si vous voulez, de maîtrise des enjeux de la démocratie. Mais en fait, l'aspect culturel au Sénégal a prédominé, et je dirais même aussi l'aspect religieux. Donc, on ne peut pas parler d'un modèle précis par pays. Parce qu'encore une fois, l'Afrique a 54 pays et il faut prendre en compte la diversité, l'histoire, en tenant compte bien évidemment du fait qu'on ait des royaumes dans le temps, du fait qu'on ait eu des empires et que, en fait, chaque peuple a besoin d'une solution qui
Alors,
lui soit.
C'est quand même intéressant parce qu'il y a eu des royaumes aussi en Europe hein, et on les a plus ou moins abandonnés, pas tout à fait. Hein, vous avez encore la couronne d'Angleterre, entre autres. Marthe Coivogui, vous-même de votre côté, qu'en pensez-vous? On pourrait penser quand même que l'humanité hein, serait enfin mature après tout ce temps hein, pour adopter quand même un mode démocratique au niveau de la gouvernance. Selon vous, pourquoi ça marche pas dans certains pays en Afrique?
Alors, en fait, je ne voudrais pas répéter ce que Leïla vient de dire parce que je partage en fait à 100% cet avis. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui serait plus intéressant là maintenant, c'est peut-être d'aborder le rôle. Il n'y a pas assez d'implication des femmes. On sait que le premier gouvernement, c'est la famille. Et que ce sont les femmes qui portent donc cette démocratie. Et là, moi, je vais beaucoup plus me pencher sur le rôle des femmes et des jeunes dans la promotion justement de cette démocratie, parce que je pense que c'est possible. Alors, le rôle des femmes et des jeunes dans cette promotion est essentiel pour assurer une société démocratique et inclusive. Il faut de plus en plus leur participation active et significative contribuera à renforcer des processus démocratiques et promouvoir l'égalité des droits et des opportunités. Au-delà de ce que Leïla vient de dire, bien sûr il faut un clin d'œil à la tradition qui a un poids. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il faudrait qu'on aille au-delà. Il y a des instruments pour construire des sociétés plus justes et plus équilibrées. Les femmes, donc, et les jeunes jouent un rôle crucial dans la promotion de la démocratie en tant qu'électrices, en tant que candidates, en tant que leaders, en tant qu'activistes et défenseurs des droits humains. Leur participation politique est fondamentale pour garantir justement la représentation équitable dans les institutions démocratiques.
Oui, alors ouais. Effectivement, Marthe, on allait en venir finalement à cette conclusion. De toute façon, hein, c'est effectivement la participation des femmes et des jeunes en politique, les nouvelles générations, les femmes, on parle beaucoup, beaucoup, énormément de toutes ces choses-là. On va revenir là-dessus après. Écoutons d'abord la réflexion d'un Camerounais.
Je pense que les principaux obstacles que rencontrent souvent nos démocraties en Afrique sont généralement les problèmes d'ingérence étrangère, les problèmes du non-respect de la constitution par les chefs d'État sortants, les problèmes de tripatouillage électoraux, les problèmes de manipulation des organes de presse, puisque on a souvent coutume à la veille des élections présidentielles, les présidents modifient leur constitution pour s'éterniser au pouvoir, et ce sont ces principaux obstacles-là qui freinent parfois notre démocratie, et je pense que face à cela, la société civile doit souvent se mobiliser, l'Assemblée nationale doit souvent monter au créneau pour empêcher que cela ne se passe. Et je pense qu'il devrait réellement avoir une séparation de pouvoir, une réelle séparation de pouvoir afin de permettre à chaque acteur de la société civile à mieux incarner son rôle.
Voilà, c'était la réflexion de Bernardo Vieira. Il est au Cameroun. C'est un de nos auditeurs. Bon, on a vraiment plusieurs sujets en un thème. On va pas pouvoir tous les aborder. Effectivement, hein, les problèmes de gouvernance, il a bien résumé tout cela. Marthe parlait tout à l'heure de l'implication de la société civile, l'implication des femmes dans la politique. Les cas des coups d'État, là. On a des jeunes, ces militaires, là, qui ont fait tous ces coups d'État. Ce sont des jeunes. Et puis, finalement, il y a beaucoup d'espoir. On l'a bien remarqué. Par rapport à la jeunesse derrière tous ces militaires. Hein. On l'a remarqué dans les commentaires, il y a beaucoup d'espoir. Toutefois, ces militaires, ils sont jeunes et on se demande, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils vont pas faire les mêmes erreurs que leurs aînés, finalement? Ces militaires, ils veulent tous des transitions de 3 ans. Donc, comment éviter à ce que cette nouvelle génération, on va dire, hein, de jeunes militaires, finalement, qui font des coups d'État, est-ce que, selon vous, ils vont faire les mêmes erreurs que les anciens?
Ben écoutez, moi je suis tentée de vous dire que c'est vrai qu'il y a une forme d'asymétrie entre cette jeunesse et les gouvernants qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que d'être à l'écoute de cette jeunesse et de lâcher un peu du lest. Alors cette jeunesse aujourd'hui est une jeunesse éveillée qui invite les gouvernants à vraiment saisir le sens de l'histoire. Et cette jeunesse, à travers tous les moyens de communication qui sont à sa disposition, ont la possibilité aujourd'hui de s'exprimer librement à travers tous les canaux que nous avons grâce à la digitalisation. Alors, la question aujourd'hui est plutôt comment faire pour éviter que cette jeunesse se soulève, non pas à travers les urnes, mais à travers les armes. Et bien que ces militaires soient jeunes, il faudrait qu'on puisse avoir la garantie que nous avons suffisamment de garde-fous, c'est-à-dire des institutions fortes, qu'il n'y ait pas de la gabégie au sommet de l'État, qu'on arrête justement ce monsieur qui intervenait tout à l'heure se plaignait de toutes ces dérives-là et de tous ces détournements, qui est quand même un respect du bien public, des deniers publics, et que la bonne gouvernance soit appliquée par les gouvernants afin justement d'éviter que la jeunesse se soulève à travers les armes, qu'ils soient militaires ou non.
Marthe Kouavogui, est-ce que la jeunesse, la nouvelle génération est prête à prendre la relève? On tourne encore autour du même sujet. C'est la question de savoir, est-ce qu'elle est bien éduquée à la démocratie? Leïla vient de parler finalement un petit peu des réseaux internet. Maintenant, on a vraiment tout type d'informations sur les questions de démocratie, et cette jeunesse peut-être, elle a forcément soif de démocratie. Est-ce que selon vous, elle est prête à prendre la relève, je vais dire, au niveau politique?
Alors, elle a certes soif de la démocratie, mais je ne pense pas qu'elle soit vraiment outillée comme il le faut au niveau de la démocratie et la bonne gouvernance, en espérant que ceux-là qui viennent de faire le coup d'État puissent se remettre en question, parce qu'il y a plusieurs instruments, n'est-ce pas, pour pallier à cela. Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance pour le développement d'une société juste, équitable et participative. Voici par exemple quelques stratégies dont je publierai ma niche sur les terres la semaine prochaine. Alors, pour promouvoir la démocratie et la gouvernance, les stratégies, d'abord, ça passe
Soyez brève.
Voilà. Investir dans les programmes d'éducation civique qui visent à informer les citoyens, par exemple, les principes fondamentaux de la démocratie. Ensuite, la participation citoyenne. Encourager, faciliter la participation citoyenne à tous les niveaux. Cela peut inclure la mise en place de mécanismes de participation. Et ensuite, la transparence et la responsabilité. Oui, il y a eu ces coups d'État suite à un ras-le-bol, suite à un non-respect, n'est-ce pas, de la Constitution. Mais ceux qui sont venus, ces jeunes, est-ce qu'ils pourront continuer à ce mécanisme de respect de la Constitution, ou bien voudront s'éternir? D'où il faudrait aujourd'hui, dans les 57 pays en Afrique, qu'on recommence à nouveau l'éducation civique pour que les jeunes puissent comprendre qu'est-ce que c'est que l'état de droit, et surtout que les médias aussi soit libre et indépendant, encourager la liberté de la presse. Ensuite, il faut un renforcement des capacités, investir dans le renforcement des capacités des acteurs politiques, des fonctionnaires et de la société civile.
Merci beaucoup, Martin. Oui, Marthe, je voudrais qu'on écoute à présent deux auditeurs. C'est pour commencer Maurice Tchédé, il est au Bénin.
La démocratie est comme une maison qu'on doit entretenir tout le temps. Si on laisse, on dit que oui, on est déjà en démocratie, et on n'entretient pas, ça tombe. C'est ça le problème d'Afrique et du monde même, tous les pays du monde qui sont en démocratie. Parce que, après tout ce que nous disons, c'est la voie politique la meilleure actuelle. en notre temps, c'est la meilleure, même si ce n'est pas parfait. Parce que nous avons vu même les États-Unis, la plus grande démocratie du monde, a tanguiné la fois dernière avec l'ancien président et le nouveau. Donc ça veut dire que c'est avec vigilance que la démocratie doit être suivie à tout moment. Il y a quelques fondamentaux qu'on doit respecter pour la démocratie. La constitution doit être respectée. Et il faut aimer aussi son pays. Si on est toujours dans la haine, la démocratie ne peut pas vivre en Afrique. Et surtout, il faut la limite d'âge. Après 70 ans, le Bénin en a fait, c'est ça qui fait la force du Bénin. Après 70 ans, on ne doit plus parler de « je veux être candidat ». Et limite des mandats, au plus deux mandats. Bénin est toujours en exercice et nous réussissons, malgré que ça tangine parfois des moments depuis 90 que nous sommes dedans, la constitution est respectée et les choses évoluent comme ça doit évoluer. Et c'est ça qui fait la force de la démocratie béninoise. Tédé Maurice, Parakou, Bénin.
Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'attentes parce que l'Internet a fait des percées spectaculaires au niveau de la démocratie en Afrique. Donc, ce réflexe qu'a certains pays quand ils s'approchent des élections de toujours fermer l'Internet est une constante. C'est la preuve qu'ils ont peur que certaines vérités émergent. Je suis inquiet parce que je pense que ce phénomène de coup d'État va continuer dans d'autres pays africains.
Voilà, c'était Jean-Louis. Il est à Kigali. Leïla Ndiaye, vous avez parlé tout à l'heure des différentes formes de, on va dire, de gouvernance, en parlant notamment des royaumes. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir justement comment éviter en politique, au sein des gouvernements, le tribalisme et le népotisme. C'est-à-dire que les royaumes, ils ont été fondés autour des tribus d'une certaine manière. Et on constate tout de même qu'il y a un réel problème au niveau de la gouvernance africaine à ce niveau-là.
Oui, c'est une très bonne question. Je vous remercie. Vous savez, la question de la tribu reste et demeurera. On ne peut pas changer l'histoire de l'Afrique. On ne peut pas changer le fait que la société africaine est basée, d'abord a été construite à travers ces tribus-là qui jouent un rôle.
Mais toutes les sociétés ont été construites
mais en
autour
Afrique,
des tribus, en Europe, sur le
continent
européen
également. Oui, mais encore une fois, l'Europe restera l'Europe et le modèle européen ne peut pas s'appliquer à 100% au modèle africain, bien que la volonté y ait, bien que le modèle de la démocratie est à saluer et à encourager. Encore faudrait-il qu'il faut prendre absolument en compte les réalités de la société africaine qui est basée sur l'aspect culturel, l'aspect ethnique et la tradition.
Alors, donnez des exemples. Par exemple, un mode de gouvernement qui n'aurait rien à voir avec ce qu'on adopte au niveau occidental, ce qui est adopté un petit peu partout. Quand vous parlez de la culture, en étant plus précis, qu'est-ce que vous voyez exactement? Parce qu'on rappelle quand même que c'est le peuple qui doit gouverner en démocratie. Donc, qu'est-ce que vous proposeriez, par exemple? Un exemple concret.
Ouais. Je reprends le cas du Sénégal, mais ce n'est pas seulement le Sénégal. Dans la société sénégalaise, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons l'impression que le Sénégalais, le citoyen sénégalais, est rompu aux arcanes de la démocratie. Mais c'est une impression. Mais cette impression-là, en fait, la réalité, c'est qu'elle est basée purement sur la culture sénégalaise où, dans la société sénégalaise, la réconciliation, le pardon sont les piliers même, sont les vertus. Ce sont des vertus. Vous prenez chez les Bantous, par exemple. Quand on me dit que la femme n'a pas le pouvoir, non, la femme s'exprime dans la société bantou à travers qui ? À travers son époux, à travers son fils aîné. Et cette femme-là a le pouvoir quelque part dans son village et participe à la vie de la cité. Donc je dirais que on ne peut pas demander à un bébé qui vient de naître à l'instant de se lever, de courir
et
de marcher, ouais. Bien évidemment, ouais. Ne mettons pas la charrue, ouais, avant les bœufs. Ouais.
On va revenir après vers Marthe Kouavogui. Écoutons la réflexion de Pascal, il est à Abidjan.
Quand vous regardez à la télé, dans certains pays comme en Côte d'Ivoire, les noms qui sortent, c'est les noms de ceux qui sont de ce côté-là. C'est très rare de voir quelqu'un qui est opposant, qui est à un truc. Donc, à un moment donné, toutes ces personnes qui elles aussi sont allées faire des grandes études, mais qui n'arrivent pas à avoir un bon poste juste parce qu'ils ne sont pas avec le pouvoir, c'est les mêmes histoires qui se passent dans ces pays-là. Alors, quand tu as déjà mis toutes ces personnes-là autour de toi, alors c'est la peur. Est-ce que la personne qui va venir va les laisser tranquilles? Est-ce que cette personne ne va pas les poursuivre? Est-ce que, vu cela, ça fait que les gens préfèrent s'éterniser au pouvoir pour protéger ses acquis. Qui il faut avoir qui viendra au pouvoir et qui va nommer les gens selon leurs mérites, qui va nommer les ministres selon leurs mérites, et puis finir ses mandats et puis aller tranquillement, laisser la bataille libre à toute personne qui aurait eu sa chance. Une fois que cela est passé à une personne, deux personnes, la démocratie aura lieu. Mais tant qu'on continue de protéger nos arrières, on aura toujours ces problèmes. Et c'est le cas d'un peu partout dans tous les pays africains. C'est très compliqué. On n'a pas encore compris la démocratie.
C'était Pascal à Abidjan. On écoute tout de suite la réaction de Franklin de Tchad.
D'abord, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais en Afrique, il n'y a plus ce qu'on appelle la démocratie. Donc, c'est plutôt la bundocratie qui est un pouvoir des armées par des armées. Donc, la cause des coups d'État en Afrique, c'est la dynastie, l'injustice, l'inégalité, la mauvaise gouvernance, le chômage, la pauvreté, manque de santé, manque d'emploi aux jeunes et même manque de l'éducation crédible. BG Franklin, fils du Tchad.
Marthe Kouavogui, vous avez parlé de la société civile tout à l'heure. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour renforcer le pouvoir de la société civile ? Parce qu'on sait que, bon, si on peut comparer encore une fois avec l'Occident, la société civile aux États-Unis, en France, en Allemagne, etc., elle a un très grand pouvoir. Le citoyen en politique, il a un très grand pouvoir. Il peut prendre son téléphone, appeler un élu, lui dire ce qui ne va pas, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour renforcer ce pouvoir-là du peuple, en somme ? À la base.
Alors, à la base, donc, il est important de noter que la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, c'est un processus continu qui nécessite l'engagement de tous, qui nécessite l'engagement de tous les acteurs. Donc, la société civile, y compris les gouvernements, la société, les médias et les citoyens eux-mêmes. Lorsque une partie de ces éléments que je viens de citer est mise au bord de l'autoroute, vous voyez que la machine a du mal à fonctionner. Et ça, nos présidents africains qui viennent au pouvoir pour s'éterniser l'ont compris ça. Donc dès qu'ils viennent, la première chose, Nathalie, c'est de disloquer la société civile. Comment on les disloque ? On voit un grand activiste qui a un pouvoir de rassembler ou qui a de la voix, le président de la République le nomme tout de suite.
Oui, tu peux tout
enlever. Le nomme ministre, il commence à le corrompre, on met tout à sa disposition. Il dévie sur le sens de son combat initial. Voilà.
Merci.
C'est pour ça que la plupart du temps, la société civile en Afrique n'a pas de pouvoir. Je le dis à chacune de mes conférences. En Afrique, je leur dis, mais vous savez, en Occident, c'est la société civile qui mène. Comme vous venez de le dire, Nathalie, un activiste ici, il peut appeler un maire, il peut appeler un préfet et lui dire, voilà, ceci, moi je propose ça, je ne suis pas d'accord sur ça. Nos présidents en Afrique, dès qu'ils voient qu'ils comprennent que cet activiste a le poids, tout de suite, on le met dans le circuit de la corruption.
Merci. Donc, alors, on va s'arrêter là parce qu'on est bientôt au terme de l'émission. Je voudrais que Leïla Ndiaye puisse nous dire un petit peu le mot de la fin vraiment concrètement comment rehausser le ton. Comment est-ce qu'on peut vraiment promouvoir la démocratie ?
D'abord, merci, ça a été une mission très enrichissante. Alors, comment promouvoir la démocratie en résumé, hein, c'est en intégrant les aspirations de cette population qui est certes très jeune, mais qui n'est pas si inconsciente que cela. Elle est plutôt exigeante. Et les gouvernants doivent intégrer dans leur mode de gestion les desiderata de ces derniers, la société civile. Maintenant, un appel à la communauté internationale. Il serait très important que cette communauté internationale, pour promouvoir cette démocratie, arrête de jouer le double jeu. Un coup d'État, il n'y en a pas un qui est bon, il n'y en a pas un qui est mauvais, qu'il soit constitutionnel, militaire ou pas. Et les règles de rule of law doit être celle qui doit être respectée sur tous les bords. Merci.
Merci beaucoup à vous, Leïla Ndiaye, et un grand merci également à Marthe Kouavogui. Avec vous, c'était Nathalie Barge, à la production Lionel Gaïman. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et bon courage.